Ben.
On s'intéresse à la concession de l'aéroport, on en a parlé avec le haut commissaire. On vous parle aussi de grande distribution avec cette décision de l'autorité de la concurrence en faveur de la brasserie de Tahiti, avant de parler fiscalité et sport. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On débute du côté de Tahiti FA, puisqu'on reparle de la concession de l'aéroport.
À Caen, un gestionnaire stable et un grand chantier de modernisation pour cet aéroport. La question est sur la table depuis plus d'une décennie. Après l'annulation de l'attribution de 2010 à Aegis et le long fiasco de l'appel à candidature de 2019, les espoirs des usagers et des professionnels de la plateforme reposent sur la relance d'une procédure de sélection par l'État. Et les nouvelles étaient plutôt encourageante du côté de Paris, où on a annoncé en fin d'année dernière que le nouveau cahier des charges était désormais prêt. C'est ce qu'a confirmé Eric Spitz sur le plateau de Radio 1 hier. Mais le haut commissaire a douché les espoirs de ceux qui espéraient un lancement de l'appel d'offres dans les semaines à venir. Car avant de lancer la procédure, le pays doit réaffirmer par un texte officiel sa volonté d'être présent dans le capital de la future société gestionnaire. Comme c'est le cas aujourd'hui avec Aegis, la Polynésie devrait détenir 49% des parts de cette structure qui remplacera ADT au pilotage de l'aéroport. Seulement, il existerait aujourd'hui une différence d'interprétation entre les juristes de l'État et du pays sur la question.
Les juristes du pays considèrent qu'il suffisait d'un arrêté en Conseil des ministres pour dire « le pays veut 49% de participation dans la future société » et nous, juristes, considèrent qu'il fallait une délibération à l'Assemblée territoriale et nous ne voulons pas risquer dans un an, dans deux ans, d'avoir une nouvelle annulation parce qu'il y a un vice de forme dès le départ. Donc on va demander au Conseil d'État de nous dire le droit parce que maintenant on veut sécuriser toutes les étapes de l'appel d'offres.
Être minutieux, attentif aux détails après tant d'échecs juridiques de l'État dans ce dossier, voilà l'idée quitte à repousser le calendrier qui n'est donc pas précisé. On sait seulement qu'entre le lancement de l'appel d'offres et l'arrivée effective d'un gestionnaire pérenne aux commandes de Tahiti FA, il pourrait s'écouler jusqu'à deux ans. D'ici là, le haut commissaire assure que la plateforme évoluera malgré la fragilité de la position d'ADT.
Nous avons obtenu d'ADT, d'Aegis, qu'ils investissent sur l'aéroport tout en sachant qu'ils s'ils ne remportaient pas l'appel d'offres, ils seraient remboursés de la durée des amortissements qu'il leur resterait à faire sur ces investissements.
Et ces investissements déjà évoqués par ADT sont le rhabillement de la façade côté passager, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques, la rénovation du terminal et de l'accueil des vols domestiques, et surtout la création d'une bretelle d'accès de la base aérienne militaire vers la piste pour libérer de l'espace et des places de stationnement pour les ATR locaux, de plus en plus à l'étroit avec le développement de la concurrence.
Et sujet de la hausse des tarifs d'ADT, le OSAR reprend la colère des compagnies.
Le OSAR comprend la colère des compagnies. Le fait qu'ADT et son actionnaire majoritaire Aegis aient obtenu une assurance de l'État d'être remboursé de leurs investissements en cas de changement de gestionnaire, eh bien ça a de quoi soulever des questions. Car ce sont bien ces investissements chiffrés à 1,9 milliard de francs qui ont justifié l'annonce fin janvier de cette hausse sensible des redevances aéroportuaires qui n'avait pas évolué depuis 2016. Cette augmentation qui atteint 9% sur certains tarifs arrive pourtant dans un contexte de résultats déjà confortables d'ADT du fait de l'activité aérienne soutenue et devrait peser sur les comptes déjà fragiles des compagnies, voire sur le prix des billets. Ainsi, plusieurs acteurs de la plateforme ont dénoncé cette nouvelle politique tarifaire avalisée par le pays, lui aussi actionnaire à hauteur de 49%, on l'a dit.
Les directeurs généraux de compagnies aériennes, après cette augmentation, ont manifesté leur surprise et leur mécontentement. Tout ce que je peux dire, c'est que je les comprends. Ben, on mettra sans doute des clauses de sauvegarde dans la nouvelle concession. Et je rappelle d'ailleurs que le cœur de cette nouvelle concession, ce sera un aéroport propre, l'aéroport de demain. Donc on pourra toujours tirer des leçons de cette gestion d'Aegis depuis 2009.
Voilà le haut commissaire qui était hier l'invité de la rédaction. Il répondait à Charles Irénée. Son interview à retrouver sur Facebook et sur notre site radio1.pf.
7h04, dans la grande distribution, le groupe Brasserie de Tahiti va pouvoir reprendre le supermarché à Paia.
Et de 3 et bientôt 4 supermarchés pour le groupe Brasserie de Tahiti, qui l'année dernière encore n'avait pas de pied dans la grande distribution. En décembre, il était autorisé à prendre le contrôle exécutif de l'Hyper-U de Pirée, seul hypermarché n'appartenant pas au groupe Van, mais aussi de l'Happy Market de Faha. Et le rachat de l'enseigne sœur de Paia, donc située au PK19, avait alors déjà été négocié. L'autorité polynésienne de la concurrence a été notifiée de cette troisième transaction en début d'année et vient donc de l'autoriser. La brasserie devrait donc rapidement disposer donc de trois supermarchés cumulant 6500 m² de surface de vente entre Pierre et Paella pour devenir donc un acteur important de la grande distribution dans la zone urbaine. D'après les projections réalisées l'année dernière par l'autorité de la concurrence, le groupe Van devrait tout de même conserver entre 55 et 75% du marché sur la zone. Il a en outre été autorisé à ouvrir un nouveau champion à Paella en concurrence directe justement avec ce Happy Market de la brasserie de Tahiti. La brasserie qui a aussi un autre projet dans ses tiroirs, un Happy Market encore déjà validé par la PC qui doit être construit au PK 4,5 à Teavaro. Une autre zone à forte concurrence hein, puisque un magasin Auchan a aussi été autorisé près des quais de Vaiare.
La fiscalité était au cœur des discussions hier à la présidence.
Oui, c'était la deuxième journée prospective de l'économie organisée par le ministère des Finances. La première s'était tenue en juin dernier, souvenez-vous, et bien celle-ci était entièrement consacrée donc à la fiscalité que le gouvernement entend réformer cette année et justement au sujet de l'adaptation de cette fiscalité aux enjeux de développement. Un important contingent d'entrepreneurs y ont donc assisté et participé aux 5 ateliers thématiques: cherté de la vie, compétitivité des entreprises, secteur de développement prioritaire, patrimoine et enfin protection sociale généralisée. Warren Dexter, conseiller technique au ministère de l'économie, a planté le décor. 67 milliards de recettes douanières, 36,4 milliards sur les entreprises, 18,9 sur les particuliers, 18,6 de recettes sur la consommation ou encore 4,7 milliards de recettes sur le patrimoine immobilier, soit au total un peu plus de 145 milliards de recettes fiscales qu'il n'est évidemment pas question de baisser. Et il le reconnaît, la fiscalité indirecte sur les importations pèse lourd dans la cherté de la vie et il faut donc chercher d'autres pistes de revenus.
Il n'y a pas de secret, hein. il faut désamorcer la fiscalité indirecte. Par contre, la question après, c'est de savoir sur quoi on se reporte. Et à chaque fois qu'on a voulu se reporter sur la fiscalité directe, on a ciblé que les entreprises. Mais aujourd'hui, c'est une très mauvaise idée parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez à une entreprise de payer plus d'impôts, forcément, elle répercute sur ses prix. Donc, ça ne concourt pas du tout à la lutte contre la vie chère. On a tendance à toujours se rabattre sur la CST des salariés, mais on a atteint quand même des niveaux qui sont devenus... faut se poser des questions, quoi. Sur la CST, c'est pas loin de 10% du salaire chaque mois. Ça commence à peser. Il faut peut-être chercher d'autres pistes.
Ces autres pistes sont celles devant lesquelles tous les précédents gouvernements avaient reculé. La fiscalité sur patrimoine, notamment immobilier, et même sur les signes extérieurs de richesse. En revanche, Warren Dexter se montre réservé sur l'idée d'un impôt sur le revenu. Pour le gérer et le contrôler, dit-il, il faudrait multiplier par 2 les effectifs de la DICP, sans que le rendement de l'impôt ni son acceptabilité ne soient garantis. De manière générale, les participants se plaignent, eux, d'un millefeuille fiscal peu lisible et instable sur le long terme. Tevaiti Pomare note que beaucoup des mesures proposées avait déjà été évoqué lors des premières journées prospectives de l'économie. Il retient surtout l'idée d'un rééquilibrage entre fiscalité et cotisation pour la protection sociale.
Ce que je retiens, c'est qu'il y a une volonté de plus de fiscalisation pour notre protection sociale généralisée, avec un rééquilibrage des cotisations et de la fiscalité, et la mise en place probable d'une TVA, on va dire sociale, déductible cette fois-ci. Je retiens aussi la volonté de maîtriser les prix et de pouvoir contrôler les marges des produits qui sont exonérés. On a beaucoup aussi une intervention sur les incitations fiscales à l'emploi local pour dynamiser l'entreprise.
Et à noter que la taxe de développement local, la TDL, sera réformée, c'est ce qu'assure le ministre. Une mesure qui a autant de défenseurs que de détracteurs. Il reste encore toutefois plusieurs mois pour se concerter. Tevaiti Pomare ne prévoit pas de présenter sa réforme fiscale avant la fin de la session budgétaire en fin d'année. Et il reste effectivement beaucoup de travail.
La Tahiti Pride Week, ce sera à partir du 4 mars.
Oui, la semaine des fiertés revient pour une deuxième édition jusqu'au 10 mars, avec comme partout dans le monde l'objectif de sensibiliser à la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT. Des soirées musicales, des stands d'information, des journées lecture, des drag queens, une soirée cinéma et une marche en centre-ville. L'association Cousin Cousine, qui avait posé la première pierre l'an passé avec cette édition, veut continuer sur sa lancée pour développer l'événement malgré le manque de moyens. L'organisateur Karel Luciani explique qu'il n'est pas forcément simple de trouver des soutiens.
C'est pas facile parce que c'est nouveau, c'est un soutenir une marche de fierté, une pride, c'est pas comme soutenir une association qui aide pour par exemple lutter contre le cancer ou une maladie, donc c'est plus compliqué.
Karel Luciani qui explique tout de même avoir trouvé de l'aide pour l'an prochain. Il espère d'ailleurs proposer un véritable défilé à l'avenir. Alors cette année, cela prendra simplement la forme d'une marche le samedi 9 mars entre le CESEC et le parc Paofei. Le président de l'association invite d'ailleurs les commerçants et les hôteliers à manifester leur soutien à la communauté.
Par exemple, en ce moment, c'est la Pride en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et les commerces, quel que soit le type de commerce, va mettre un petit drapeau. Même les administrations vont aussi participer occupées, il y a des villes qui vont pavoiser les rues. Donc, nous, on fait aussi un appel à ce sujet.
Voilà, et peu importe l'affluence qui n'avait pas forcément été au rendez-vous l'an dernier, le plus important c'est d'être visible, souligne Karel Luciani, qui salue au passage des évolutions positives dans la société, avec, dit-il, enfin un gouvernement qui nous soutient et une jeunesse qu'il juge plus tolérante et plus ouverte. Voilà, la semaine des fiertés, la Tahiti Pride Week, c'est donc du 4 au 10 mars, le programme complet sur notre site internet.
De jeunes rameurs, volleyeurs et rugbymen vont se confronter à leurs voisins.
Oui, un tournoi se prépare, un tournoi entre sportifs tahitiens, calédoniens, wallisiens et futuniens. Il aura lieu du 1er au 5 avril en Nouvelle-Calédonie. C'est l'idée de l'événement Génération Pacifique, présenté hier par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Nahema Temari. Elle en parlait déjà en novembre dernier comme d'un rendez-vous entre pays du Pacifique, calé sur le concept des journées de sport et de sensibilisation du même nom, organisées régulièrement à Tahiti et dans les îles. Trois mois plus tard, c'est finalement un projet différent qui en ressort, puisqu'il s'agit désormais d'un tournoi sportif qui va donc permettre la rencontre sur le terrain et dans l'eau de jeunes de moins de 18 ans issus du VAA, donc du volley et du rugby. Des disciplines que l'on retrouve d'ailleurs au programme des mini-jeux et des Jeux du Pacifique qu'il faut préparer avec l'élite de demain, c'est ce qu'assure la ministre des Sports, qui en parle comme d'un projet transversal. Écoutez-la au micro de Vaitiaré Pereire.
C'est compliqué pour les fédérations de venir en fait stimuler, dynamiser toutes ces jeunes générations. L'objectif en fixant en fait cette règle, ce cadre des moins 18 ans, c'est tout simplement de donner un objectif à ces sportifs. Le fait de porter les couleurs de son pays, etc., chez cette population, va faire toute la différence. On est vraiment sur un dispositif à la fois sportif, qui s'adresse aux jeunes, parce que cette jeunesse, il faut qu'on s'en occupe, et qui en plus va permettre de fixer un objectif et donc d'occuper notre jeunesse pour prévenir la délinquance.
Et s'il fonctionne, ce projet est amené à être pérennisé avec une édition tous les deux ans. La ministre a d'ailleurs tenu à mettre le COPF à contribution, car elle en est persuadée, le fait de favoriser les échanges régionaux ne peut que faire augmenter le niveau. Une position partagée par Louis Provost, le président du comité olympique, qui voit ces confrontations comme une aubaine pour faire évoluer les jeunes.
Nous, on est d'accord sur le principe de faire rencontrer nos athlètes, les moins de 18 ans en particulier, parce que c'est de cela aussi qu'on aura besoin en 2027. Et c'est une bonne préparation pour les Jeux. En 2025, il faut savoir que les mini-jeux de Palo intègrent dans les disciplines les moins de 18 ans. Donc, si ça permet aux fédérations de forcément aller chercher, je dirais,